Bonjour Lionel.
Bonjour.
Voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles. Alors, qui ne porte jamais aussi bien son nom, puisque le thème de l'émission, c'est l'histoire de plusieurs étoiles. Il y en a quatre, en l'occurrence, dont vous souhaitez nous parler. Alors, je vais en citer notamment quelques-unes, mais vous y reviendrez tout de suite. HD 14 89 37, on reconnaît là le côté poétique des astronomes. Et puis, il y en aura
Ah,
d'autres.
ça fait plaisir.
Pourquoi parler de l'histoire de ces quatre étoiles?
Mais en fait, c'est des étoiles parmi d'autres, on va dire, des étoiles qui ne sont, alors évidemment, ce sont des petits points dans le ciel nocturne, mais en fait, quand on les étudie de près, elles cachent parfois une histoire plutôt mouvementée. Et aujourd'hui, on va voir l'histoire particulière de certaines de ces nombreuses étoiles que l'on peut admirer dans le ciel. Donc, c'est pas juste des petits points pour décorer la voûte céleste. Quand on les étudie avec des instruments adaptés, et puis les professionnels ont vraiment des instruments à la pointe du progrès, eh ben, on découvre des choses tout à fait fascinantes dans leur histoire.
Donc vous voulez nous les faire découvrir maintenant.
Absolument.
Ah, tout de suite. Lionel, on va donc parler aujourd'hui dans Route vers les étoiles, d'histoire d'étoiles, c'est le cas de le dire. On va commencer tout d'abord, vous allez commencer par nous parler de HD 14-89-37. C'est un couple d'étoiles qui est né ensemble, mais il y a très très longtemps.
Exactement, ce couple d'étoiles. Alors comme beaucoup d'étoiles, les étoiles naissent non pas en couple, même carrément en groupe, en amas. Donc la nébuleuse primitive qui donne naissance aux étoiles a suffisamment de matière dès le départ pour finalement former plein de grumeaux, chaque grumeau s'effondrant sur lui-même par gravité et forme une étoile. Et donc on a, à partir d'une nébuleuse primitive, finalement, un amas d'étoiles. On appelle ça un amas ouvert, contrairement à d'autres amas que l'on voit, qu'on appelle des amas globulaires, vraiment des boules d'étoiles. Non, là, ce sont des groupes d'étoiles de quelques dizaines, quelques centaines, grand maximum, qui finissent par s'éparpiller. Et puisqu'elles sont nées les unes pas très loin des autres, certaines tournent en orbite autour les unes des autres, et donc on a beaucoup de couples d'étoiles. Le Soleil est une étoile solitaire. Ce n'est pas la majorité dans notre galaxie. La plupart des étoiles sont plutôt en couple. Et là, on va parler en l'occurrence d'une étoile située dans la constellation de la Règle. Donc ça, c'est dans l'hémisphère sud qu'on peut la voir, à 3800 années-lumière de la Terre. Alors HD, alors la plupart des étoiles portent des noms, on va dire, pas très poétiques, il
Oui,
faut
c'est pour
dire.
les répertorier. Oui, voilà, c'est ça.
Alors
Les
voilà, il y a
classer.
eu plusieurs, on va dire, il y a eu trois grandes séries de dénominations. Il y a eu les Grecs. Les Grecs se sont servis de leur propre alphabet, alpha, bêta, gamma, delta, en fonction de la luminosité. Donc l'étoile la plus brillante d'une constellation, c'est toujours alpha. Alpha de la Lyre, c'est Vega, par exemple. Certaines de ces étoiles-là, là, ce sont, on va dire, les Arabes, par la suite, qui ont repris le flambeau au Moyen-Âge, lorsque la science, en Europe a un peu décliné. En fait, c'est les Arabes qui ont repris le dessus avec la science, et ils ont donné des vrais noms. Donc, on a Deneb, Arcturus, Altair, Albireo. Donc, tous ces noms-là, sont vraiment des noms particuliers. Et puis avec les instruments qui sont arrivés par la suite, alors là on en a découvert plein d'étoiles, et parmi ces étoiles-là, des étoiles tout à fait intéressantes, et il fallait les répertorier, et il fallait les classifier, il fallait noter leur position. Et là on a des catalogues d'étoiles. Et là en l'occurrence, cette étoile de la règle HD, c'est en fait Henry Draper. Donc c'est le nom de celui qui a voulu faire des catalogues d'étoiles. Et là on en a plein qui ont voulu faire des catalogues, soit d'étoiles, soit de galaxies, soit de nébuleuses. On a tout un tas de catalogues. Donc en l'occurrence, c'est là, c'est le catalogue Henry Draper. On est dans la constellation de la Règle. Comme vous l'aviez dit, il s'agit d'un couple d'étoiles. Alors, d'un couple d'étoiles, elles se sont forcément formées en même temps. Et pourtant, quand on mesure l'âge des étoiles, il y a une différence d'1,5 million d'années entre les deux.
Comment on
Et
explique
c'est ça
ça?
qui paraît, voilà, ça paraît tout à fait, mais pas anormal, complètement anormal. Donc, les étoiles se forment, on l'a dit, en même temps, il n'y a aucune raison qu'il y en ait une qui ait attendu 1,5 million d'années avant l'autre, après l'autre en tout cas, pour se former. Et donc, en étudiant ces étoiles-là, on
Oui.
s'est rendu compte que la seule explication possible, c'est qu'en fait, à l'origine, on avait affaire à un triplet d'étoiles. Donc, elles ne vivaient pas en couple, mais elles vivaient à trois.
Et donc
Et
cannibalisé.
il y en a deux qui ont fusionné.
Ah.
Et simplement cette fusion, alors les étoiles avaient bien exactement le même âge, elles se sont toutes les trois formées en même temps, mais la proximité des deux précédentes, les deux premières, en fait, a fait que ça a fusionné. Et cette fusion-là fait que ça donne on va dire un surplus d'hydrogène dans l'étoile résultante. Et c'est ce surplus d'hydrogène-là qui, effectivement, la rend plus jeune, la fait croire plus jeune. Elle est plus massive, mais elle a surtout beaucoup plus d'hydrogène que les deux n'avaient finalement séparément au départ. Parce que quand on mesure l'âge d'une étoile, c'est comme quand on fait une datation au carbone 14, on mesure ce qu'il reste de carbone 14, par exemple. Bah pour une étoile, bah en gros, on mesure ce qu'il reste d'hydrogène. Parce que la vie d'une étoile, la très 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 grande majorité de sa vie d'une étoile, c'est la transformation de l'hydrogène en hélium. Pour vous donner une idée, si on prend la vie d'une étoile, et quelle que soit sa masse, en fait, ça marche à peu près bien, la vie d'une étoile représentée sur une année. La transformation de l'hydrogène en hélium, ça va jusqu'au 25 décembre. Et la fin de la vie de l'étoile, finalement, c'est extrêmement précipité et ça dure très peu de temps. Donc il suffit de dater, en gros, de mesurer la quantité d'hydrogène pour avoir une bonne idée de l'âge d'une étoile. Mais si l'étoile absorbe de l'hydrogène, bah là en tout cas par cannibalisme, il y a eu collision,
oui.
Eh bien on se rend compte que on n'a pas la bonne quantité d'hydrogène et là ça fausse la mesure. Et donc on a une étoile qui paraît anormalement plus jeune que son compagnon alors qu'elles ont exactement
oui.
le même âge.
On va dire qu'elle s'est régénérée quoi, que, voilà c'est ça, on pourrait dire ça.
Mais exactement. Alors en fait en étudiant encore de plus près dans les images que l'on a réussi à faire, on a découvert un nuage de gaz et de poussière autour de ce couple-là. Et normalement, ça se forme plutôt en fin de vie. Et là, les étoiles sont quand même trop jeunes, elles ne sont pas arrivées en fin de vie pour expulser autant de matière que ce qu'on observe. Eh bien non, ça date justement du moment de la collision. Et dans la collision, bah, les deux étoiles n'en ont formé plus qu'une. Et surtout, il y a eu de la matière qui a été éjectée dans l'environnement immédiat. Et on se rend compte que ce nuage de poussière-là est âgé de 7500 ans. Et ça, c'est vraiment très jeune par rapport à l'âge des étoiles. Et en analysant la composition, on se rend compte qu'il y a du carbone, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, des éléments qui devraient se trouver à l'intérieur des étoiles, pas à l'extérieur. Et donc on se rend compte qu'il s'est visiblement passé quelque chose de remarquable il y a, on va dire, en gros 10 000 ans. Une
oui.
hypothèse qui est vraiment privilégiée par les astronomes pour expliquer cette différence d'âge dans ce couple. Donc là, on a réussi à observer quelque chose d'inattendu, mais surtout autre chose aussi, c'est que la plus massive des deux, on y a découvert un champ magnétique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas explicable non plus très facilement, parce que plus une étoile est massive, moins longtemps elle garde son champ magnétique. Et là, la grosse, qui est évidemment le résultat de la collision de deux autres, elle a toujours un champ magnétique. Et ça, ça permet de résoudre une autre énigme. C'est lorsque l'on observe des champs magnétiques dans des grosses étoiles, eh ben, l'hypothèse, c'est que peut-être que la grosse est le résultat de la fusion de deux petites, et dans la fusion, on garde le champ magnétique des petites.
Oui.
Si un champ magnétique pour le Soleil, là, ça perdure dans le temps, contrairement aux très très grosses étoiles qui perdent leur champ magnétique. Donc un champ magnétique qu'on observe dans une grosse étoile, on peut soupçonner qu'il y a eu par le passé une collision entre étoiles plus petites qui a formé une grosse et qui a permis de garder ce champ magnétique tout au long de sa vie.
D'accord. Bon, bah écoutez, c'est passionnant tout ça et ça montre encore une fois, mais ça c'est juste une anecdote, que notre Soleil est vraiment un peu, c'est pas le cas courant quoi. Comme vous le disiez au début
Exactement,
de cette émission,
c'est vraiment une étoile
ouais.
particulière, absolument.
Ouais.
C'est une étoile banale, on va dire, dans le sens où la plupart des étoiles ne sont pas beaucoup plus massives que le Soleil. C'est la grande majorité, ça, on va dire, c'est banal, mais les conditions sont tout à fait particulières et en gros, on pourrait dire presque ça pour chaque étoile. Chaque étoile a sa propre histoire.
Bien, très bien. Bon, et Lionel, si on parlait encore d'étoiles, de jeunesse d'étoiles, mais au travers d'un, c'est le cas de le dire, d'un trou noir galactique.
Alors, on va parler de notre trou noir galactique. Alors, notre trou noir a un nom, hein, il s'appelle Sagittarius A étoile, A star. C'est le nom du trou noir du centre de la Voie lactée. Alors, c'est un trou noir galactique, hein, c'est bien plus gros qu'un trou noir stellaire. Hein. Trou noir stellaire, c'est la fin de vie des très très grosses étoiles, mais ça reste un trou noir qui a une masse comparable à celle du Soleil, c'est quelques masses stellaires. Là, on parle de 4 millions de masses solaires. Donc c'est vraiment vraiment énorme. Et avec cette masse-là, si on le mettait à la place du Soleil, hein, ça mesurerait que 12 millions de kilomètres de rayon. Le rayon de Mercure, c'est de l'orbite de Mercure, c'est 50 millions de kilomètres. Donc
ah oui.
Le trou noir de notre galaxie rentrerait très bien dans notre système solaire.
Il est tout petit.
Il n'y a pas de problème.
Il est tout petit.
Il ne fait que 4 millions de masses solaires. C'est
ouais.
pas très gros.
C'est un...
Alors, ce qui intrigue les astronomes, c'est pas, bon, là, on va pas faire une chronique particulièrement à propos du trou noir, mais de ce qui tourne autour. Et là encore, on en revient à cette histoire, une histoire de jeunesse à nouveau. On a découvert des étoiles qui sont étrangement jeunes, qui orbitent autour de ce trou noir galactique. Alors étrangement jeunes, encore une fois, simplement quand on analyse leur lumière par spectroscopie et on analyse le taux d'hydrogène par rapport au taux d'hélium, et on trouve que ces étoiles sont très jeunes. Alors, l'hypothèse privilégiée, on s'en doute encore, on va parler de cannibalisme. Il y a des étoiles qui en ont absorbé d'autres et qui, dans la collision, a augmenté cette quantité d'hydrogène qui leur permet de prolonger finalement leur durée de vie, puisqu'il y a plus de carburant, en quelque sorte, pour transformer l'hydrogène en hélium. Pourquoi des collisions sont possibles, probables, et évidemment, ça doit être ce qui se passe au centre de notre galaxie? C'est simplement, c'est au centre d'une galaxie, c'est là où la densité en étoiles est la plus importante. Les étoiles qui, elles sont déjà très nombreuses, très denses, c'est le noyau de la galaxie, et comme elles orbitent à proximité du trou noir, qui a quand même une masse relativement élevée, elles sont propulsées à des vitesses impressionnantes. Donc elles tournent très vite autour du trou noir, et les collisions sont possibles. Alors on a fait des simulations, et les simulations c'est important dans ces conditions-là, parce que c'est pas évident de regarder ce qui se passe en détail au centre de notre galaxie. Parce que la densité en étoiles, on l'a dit, est tellement forte, mais surtout en gaz, en poussière, ben on a du mal à voir ce qui s'y passe avec précision et avec tous les instruments qui permettraient de voir des choses. Parce que ben c'est caché. Tout ça s'est caché dans la constellation du Sagittaire. Donc le centre de notre galaxie, c'est dans les constellations que l'on peut admirer le soir en été. Donc on a fait des simulations. On a évidemment paramétré la densité d'étoiles, on a mis un peu de gaz, on a mis des étoiles, on a mis de la poussière. Et puis surtout, on a fait tourner tout ça à la vitesse que l'on arrive à mesurer. Et on s'est rendu compte, eh bien oui, les collisions sont quelque chose de courant dans l'environnement de notre trou noir. Et donc, c'est probablement par ce processus-là que ces étoiles-là paraissent beaucoup plus jeunes qu'elles ne le sont en réalité. Il doit y avoir énormément de collisions entre étoiles, et c'est probablement comme ça aussi qu'une galaxie peut évoluer. Donc, des simulations qui viennent confirmer des observations, qui viennent résoudre des énigmes en quelque sorte, et qui permettent aussi d'étudier finalement la dynamique d'une galaxie, comment une galaxie peut se former, évoluer, grâce à tout ce qui se passe à proximité de son trou noir galactique à des vitesses faramineuses.
Très bien, on fait une pause et puis on se retrouve pour la suite de cette émission d'ici quelques instants. Voilà, vous écoutez l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Bouris, qui est le président de l'association d'astronomie Albireo 78, basée aux Essarts-le-Roi. Lionel, aujourd'hui, cette émission, comme je le disais au début, n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'il s'agit d'histoire d'étoiles. On a abordé des couples d'étoiles, on a abordé des étoiles qui gravitaient autour d'un trou noir, de notre trou noir. Vous allez maintenant nous parler d'une nébuleuse planétaire.
Alors, petite nébuleuse planétaire, bien connue des astronomes amateurs, parce que celle-là, on peut l'observer, elle porte le sigle M76, M comme Charles Messier. Donc là encore, une histoire de catalogue. Charles Messier était un chasseur de comètes, mais à son époque, tout ce qui était dans le ciel, autre que des étoiles, c'était des petites boules floues. Les comètes, avec leur chevelure et leur queue, c'était des boules floues. Et il y avait aussi d'autres petits objets flous dans le ciel qu'on appelle des nébuleuses. Donc pour ne pas confondre ceux qui se déplacent, a priori les comètes, et ceux qui ne se déplacent pas, donc les nébuleuses, il a fait un catalogue de nébuleuses, en tout cas de ce que lui observait et pensait être des nébuleuses. Alors là, on va parler du numéro 76 dans son catalogue. On est dans la constellation des Persées, à 3400 années-lumière. Petite nébuleuse qu'on appelle une nébuleuse planétaire, simplement par sa forme. Alors, si on grossit pas trop, on dirait qu'on a affaire à un petit disque. Genre, quand on regarde Uranus, par exemple, à l'oculaire d'un télescope, c'est une petite boule.
Ça doit être vraiment petit, oui, effectivement, à l'échelle de l'univers.
Alors pourquoi c'est si petit? Parce que c'est la fin de vie des étoiles de type solaire. Donc, à la fin de sa vie, l'étoile, le soleil va gonfler. Alors, quand je dis à la fin de sa vie, c'est vraiment tout à la fin de sa vie. Dans les derniers jours de l'année, si la vie du soleil, on la considère représentée par nos 365 jours, il va rester dans sa phase principale, hein, la fusion de l'hydrogène en hélium jusqu'à Noël, jusqu'au 25 décembre. Et puis, les 5-6 derniers jours qui restera dans l'année, c'est pour la fusion de l'hélium en carbone, oxygène, et puis après, à ce moment-là, il se sera devenu une géante rouge, donc une grosse étoile, jusqu'à atteindre pratiquement l'orbite de la Terre. Donc le Soleil va enfler et les couches externes tiendront difficilement par gravité, on va dire. Le vent stellaire, le vent solaire, réussira à faire fuir toutes ces couches comme ça dans l'espace. Et donc, il y a de la matière qui s'échappe. Et cette matière-là va former une nébuleuse autour de ce qui va rester de l'étoile, le noyau, qui va devenir une naine blanche. M76, c'est exactement ce dont on est en train de parler, c'est une nébuleuse planétaire. Donc une étoile comme le Soleil à l'origine, arrivée en fin de vie, passée par la phase de géante rouge, et l'étoile mourante, la naine blanche, a une densité assez élevée, et surtout une température de surface très élevée. Donc la naine blanche, c'est une étoile qui a à peu près la masse du Soleil, mais sa température de surface est 140 000 degrés. Elle émet beaucoup d'ultraviolet, par exemple. Et ces ultraviolets vont éclairer la matière qu'elle a expulsée durant la fin de sa vie. Et donc, M76, c'est ce que l'on voit ici. Alors, cette phase de nébuleuse planétaire-là ne durera qu'un temps, parce que la matière s'échappe, la matière se dilue, et puis surtout, elle est de plus en plus loin de la naine blanche qui l'éclaire.
Oui.
Et la naine blanche va aussi perdre de l'énergie. Donc, une phase de nébuleuse planétaire, ça dure, en gros, hein, l'ordre de grandeur, c'est 10 000 ans. 10 000, 15 000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, on ne voyait pas les nébuleuses planétaires qu'on peut voir aujourd'hui, on en voyait d'autres. Et dans 10 000 ans, tout ce que l'on connaît aujourd'hui, aura disparu, ce sera dilué dans l'espace, mais il y en aura d'autres. Et donc, on observe déjà cette belle petite nébuleuse M76. En fait, quand on fait des photos et qu'on observe, on va dire à l'oculaire, on voit une petite barre. Alors là déjà, on se dit, on imagine la géante rouge, le Soleil, c'est une sphère qui émet qui éjecte de la matière dans toutes les directions. On se dirait c'est plutôt normalement une sphère. Alors beaucoup sont en forme de sphère, des nébuleuses planétaires. Celle-là, c'est pas le cas. On voit essentiellement une barre. Si on fait des pauses en accumulant bien plus longtemps, même chez les amateurs, la barre devient bien plus brillante. On voit des détails dans la barre et on voit deux anses de chaque côté de la barre. Bon, c'est tout ce que l'on peut voir et ce que l'on peut déduire, nous en tout cas, à notre niveau à nous. Et Hubble, pour ses 34 ans d'existence, s'est aussi dirigé vers la petite nébuleuse M76 dans la constellation de Persée. Et Hubble a étudié, alors évidemment avec bien plus de détails que nous pouvons le faire, cette petite nébuleuse. Alors, il a observé, la barre en fait, c'est un anneau, mais vu de profil, vu par la tranche. Alors un anneau vu par la tranche, évidemment, ça fait une barre rectangulaire. Et ce que on voit comme deux anses de chaque côté de cette barre-là, en fait, ce sont deux lobes de matière, alors là, sphérique pour le coup, qui s'échappent de chaque côté de cette barre-là.
Oui.
En fait, l'étoile était autrefois une étoile double. Il n'y a que les étoiles doubles qui peuvent donner des formes à ce point singulier aux nébuleuses planétaires. Sinon, c'est vraiment juste sphérique.
D'accord.
C'est sphérique. L'étoile, quand elle souffle sa matière externe, c'est dans toutes les directions, on va dire à peu près de manière homogène. Et donc, en gros, c'est une bulle qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Mais si à l'origine, vous avez un couple d'étoiles, la gravité, la rotation de l'une autour de l'autre fait que ça modifie cette forme-là. Et surtout que c'est la première, on va dire, la un peu plus lourde, la plus massive des deux qui arrive en fin de vie avant l'autre. Et l'autre, dans son balai, dans sa rotation autour du premier compagnon qui est mort, va sculpter cette nébuleuse-là et va lui donner d'autres formes. Et donc, cette forme-là est due, à l'origine, à une étoile double. Et Hubble n'a pas vu ce petit compagnon stellaire qui orbite autour de l'autre. Et en fait, dans les conclusions, on se rend compte que la présence de l'anneau qui se trouve dans l'axe équatorial de l'étoile, cet anneau-là indique que très probablement le petit compagnon a été cannibalisé, encore une fois, par l'étoile centrale. Et les deux lobes, ils s'étendent au niveau des pôles de ce qu'il reste de l'étoile qui finalement est une seule étoile toute seule. La vitesse d'extension de ces lobes-là, c'est 3 millions de kilomètres heure. Et en fait, on a on a eu un vent stellaire. Donc, le vent stellaire créé par la collision entre les étoiles a créé une onde de choc qui est venue percuter de la matière qui était bien plus froide, bien plus lente, qui avait été éjectée précédemment. Donc là, il y a une onde de choc entre la matière éjectée précédemment et la matière toute récente qui, elle, file à 3 millions de kilomètres heure autour de cette étoile-là. Donc l'onde de choc fait que ça vient illuminer un peu ce que l'on observe dans la nébuleuse. Le rayonnement ultraviolet de la naine blanche qui reste, hein, il excite tout ça avec des couleurs magnifiques. Alors on voit le rouge, ça c'est de l'azote. On voit du bleu, c'est de l'oxygène. Finalement, on voit tous les éléments qui ont été créés durant la vie de l'étoile et qui ont été éjectés dans la phase de géante rouge à la fin de sa vie. Et ça, ça nous donne un aperçu de ce qui se passera pour le Soleil d'ici 5 milliards d'années, lorsque lui aussi sera arrivé en fin de vie.
Bon, on fera une émission en direct pour commenter cet événement, hein. On est d'accord ?
En direct, il n'y a pas de problème.
Ok. Très bien, maintenant parlons alors d'autre chose, même si on aurait pu continuer à parler de M76 pendant un petit moment, parce que effectivement, comme vous le remarquiez il y a quelques instants, ça nous permet de savoir comment notre système solaire et notre Soleil va se terminer. Mais il y a d'autres objets aussi passionnants dans l'univers. Vous allez nous parler du magnétar XTE.
Alors un magnétar, là c'est quoi, autre ça chose, comme toutes les étoiles. Alors là on est dans la constellation du Sagittaire et on est à 8000 années-lumière dans la constellation du Sagittaire et on a un magnétar. Magnétar c'est une étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons déjà c'est ce qui reste à la fin de la vie mais des étoiles massives. Alors soit ça finit en étoile à neutrons, soit ça finit en trou noir carrément parce que la gravité est tellement élevée à la surface, même la lumière n'arrive pas à s'en échapper. Mais techniquement, entre étoile à neutrons et trou noir, c'est la même chose. C'est juste un trou noir à une vitesse de libération, donc à une vitesse pour s'en extraire, qui est juste plus élevée que celle d'une étoile à neutrons, et en l'occurrence, est plus élevée même que celle de la lumière, qui est la vitesse la plus élevée connue. Donc, on est à une étoile à neutrons. Fin de vie des étoiles massives. Par exemple, le Soleil, il est 100 fois plus grand que la Terre. Dans son diamètre, on pourrait mettre 100 Terres. La fin de vie du Soleil, ce sera une naine blanche. C'est-à-dire c'est la masse du Soleil, mais dans quelque chose qui aura la taille de la Terre. Donc imaginez la densité. Une étoile à neutrons, là je parle de quelque chose qui est encore 2000 fois plus petit. Donc c'est la masse du Soleil, mais dans un diamètre qui fera 6 kilomètres. Vous imaginez la pression. Donc c'est ça une étoile à neutrons. Ça part d'une étoile très grosse à l'origine, hein, plus de 5, 6, ça peut être 10 masses solaires. Et 10 masses solaires, ce qui va en rester, ça va être dans une petite boule, toute petite. Donc ça c'est déjà une étoile à neutrons. Là on parlait de magnétar. Magnétar parce que c'est une étoile à neutrons qui dispose d'un champ magnétique. Alors un champ magnétique, on va encore partir dans les extrêmes, hein. En astronomie bien souvent on a des nombres astronomiquement grands, on va parler du champ magnétique. Le champ magnétique de la Terre c'est un demi-gauss, si on compte en échelle gauss, c'est la moitié d'un gauss. Là on parle d'un magnétar, et le magnétar du Sagittaire, l'ordre de grandeur du champ magnétique c'est 1 000 000 000 000 000 000 de gauss. Donc nous c'est un demi, et avec ça permet de nous protéger de la plupart des particules du vent solaire, et ça fait faire de belles aurores polaires par exemple, avec juste un demi gauss. Là la protection c'est autre chose, hein. 1 000 000 000 000 000 de gauss.
Ah bah c'est tranquille.
Là les boussoles s'affoleraient dans tous les sens, là il n'y a pas de problème, même à la main on ne pourrait pas tourner l'aiguille de la boussole, hein. C'est beaucoup trop fort. Donc ce sont les aimants les plus puissants qu'on puisse trouver dans l'univers, hein. Et celui-là, donc ce magnétar de la constellation du Sagittaire, a révélé en plus des caractéristiques inattendues. Alors, c'est un magnétar, ça émet de la lumière, hein, ça émet des ondes radio, ça émet des ondes électromagnétiques. Voilà, on va parler, on va dire, de tout ce spectre-là d'ondes qui se déplacent toutes à la vitesse de la lumière, le rayonnement électromagnétique. Eh bien, on a découvert que le rayonnement électromagnétique émis par ce magnétar-là était un rayonnement électromagnétique polarisé. Alors, c'est quoi la polarisation de la lumière? Voilà. La lumière, c'est la propagation, on va dire, d'une onde, mais une onde électromagnétique. Mmh. Alors, il y a les particules qui sont les photons, et ces photons-là sont vecteurs d'un champ électromagnétique. D'accord. Électro, ça veut dire il y a un champ électrique et il y a un champ magnétique qui sont perpendiculaires. Par exemple, le champ électromagnétique, les ondes qui sont émises par le Soleil n'ont absolument pas de polarité particulière. Donc, une polarité quelconque. Lorsque le Soleil se réfléchit par exemple à la surface d'une table, à la surface de l'océan. Et donc, les ondes réfléchies, elles par contre, ont une polarité qui est horizontale. Et si vous avez des lunettes de soleil avec des verres polarisants, évidemment polarisés verticalement, vous bloquez toutes ces ondes qui sont polarisées horizontalement. Ça veut dire que vous supprimez tous les reflets. Les lunettes de soleil polarisées sont des lunettes qui ont une polarité perpendiculaire à toutes les ondes qui sont réfléchies par une surface. D'accord. Si vous regardez le soleil, alors faut pas regarder trop longtemps, mais il y a aucune polarisation, il se passera rien avec vos lunettes polarisantes. Par contre, ça supprime toute la lumière qui a été réfléchie, quelle que soit la surface de réflexion, parce qu'à la surface, après réflexion, il y a polarisation horizontale. Voilà ce que ça veut dire. Là, on a observé une polarisation encore particulière, parce qu'il n'y a pas que les polarisations, on va dire, verticales ou horizontales qui existent. C'est une polarisation circulaire. C'est-à-dire qu'en plus, ça tourne. Ça tourne comme les aiguilles d'une montre. Voilà, la polarité n'est pas toujours dans le même sens. Ça, imaginez la trotteuse, elle tourne quand même un peu plus vite. La trotteuse, voilà, tantôt elle est horizontale quand elle est sur le 3 ou le 9, et puis elle est verticale sur le 6 et le 12, et puis elle tourne. Voilà, ça ne fait que tourner. Ça, c'est ce qu'on appelle ça une polarisation circulaire. Et donc la lumière, elle semble spiraler dans l'espace tout en se déplaçant, comme si elle dessinait un colimaçon dans son trajet. Eh bien, pour produire une lumière qui a cette propriété. Alors, je parle de lumière, mais là, on va dire au sens large, c'est-à-dire c'est une onde électromagnétique. Pour produire une onde qui a cette particularité-là, il doit se passer des choses qu'on a du mal à expliquer à la surface d'une étoile. On a dit le Soleil, sa polarisation n'a rien de spécial, c'est une polarisation dans tous les sens. Et l'explication actuelle, on pense que c'est la présence d'un plasma surchauffé au-dessus du pôle magnétique qui pourrait agir comme un filtre polarisant. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui polarise la lumière, et donc il faut bien une sorte de filtre. Alors un filtre par un plasma, là la question c'est comment le plasma agit sur ces signaux-là pour donner cette polarisation. C'est une découverte hein, qui a donné justement des choses inattendues sur les magnétars. On ne s'attendait pas à ça de la part des magnétars, on vient de découvrir ça. Découverte inattendue, probablement, donc je vous ai dit, ça proviendrait. Il y a des chances que ça vienne de ce qui se passe dans la haute atmosphère, c'est un plasma dans la couronne du magnétar. Mais là, on est dans la physique de l'extrême, hein. Ouais. Même dans la physique extrême des champs magnétiques, on est dans la dynamique des plasmas. Donc là, c'est une fenêtre de la physique extrêmement ardue, avec des équations très difficiles, qui ne sont pas toutes résolues d'ailleurs, hein, ça fait l'objet de recherches encore, toute cette dynamique des plasmas-là, et c'est probablement une toute nouvelle fenêtre sur l'univers qui nous permettrait de résoudre l'énigme de ces fameux magnétars qui émettent des ondes polarisées circulaires.
Eh ben dites-moi... C'est passionnant tout ça. En tout cas, une émission qui a été consacrée à des cas particuliers, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire. Hein. C'était l'objet de cette émission.
Absolument. Et avec toutes les étoiles qu'il y a encore dans notre galaxie, et là, on n'est pas allé très très loin. Parce que ces étoiles-là, on était à 3400, 8000 années-lumière. On est vraiment dans la banlieue proche. On est allé un petit peu plus loin avec le trou noir central, notre trou noir galactique à 25000 années-lumière. Mais c'est dans notre banlieue proche, et dans notre banlieue proche, il y a encore plein d'histoires à découvrir.
Eh bien, très bien. Ben, on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission. Lionel, merci et à bientôt pour un nouveau En route vers les étoiles.